Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour, vous m'écoutez sur Radio Panique. Oh, non, vous ne m'écoutez pas sur Radio Panique. Bonjour, chères auditrices, vous m'entendez maintenant sur Radio Panique. Alors, nous écoutions donc l'émission de Vie Féminine Bruxelles avec à l'antenne et en direct des invitées précieuses et surtout, en ce mois de commémoration du cinquantenaire de l'indépendance du Congo, c'est l'occasion d'entendre la voix des femmes et je suis très heureuse d'accueillir plusieurs personnes. Il s'agit de Soizic Dubeau, de Vie Féminine, et puis je vais laisser présenter et se présenter nos invités, Madi Thiembé et Sabine Kakunga. Bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être je vous ai présenté par votre prénom et votre nom de famille, mais peut-être pour les auditeurs, il serait judicieux de savoir d'où vous parlez, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que vous êtes chez nous ici aujourd'hui, et puis votre engagement pour la cause des femmes, de toutes les femmes ici et ailleurs. Je vous passe la parole.
Bonjour, donc Madi Thiembé, c'est le résultat donc d'une rencontre au sein de la Marche mondiale des femmes, qui est un mouvement de femmes reconnu et connu. Ce mouvement qui regroupe énormément d'associations de femmes, des fédérations féminines en Belgique et partout ailleurs dans le monde. Et c'est lors de ces rencontres de femmes que j'ai fait la connaissance de Vie Féminine. Le combat est le même, le combat pour plus de droits des femmes et pour les femmes et avec les femmes. Raison pour laquelle nous, l'Action des femmes pour le développement, nous sommes ici aujourd'hui pour justement parler de ces considérations de femmes qui nous tiennent tellement à cœur face aux violences qu'elles subissent, les violences de tout genre.
Merci. Et vous, Sabine Kakunga, bonjour.
Oui, bonjour. Donc, j'ai dû déjà rencontrer certains représentantes des vies féminines dans différents colloques, que ce soit à l'Amazon, que ce soit avec la Commission Femmes et Développement. Mais comme l'a dit Madi, ici, nous cheminons ensemble à travers la Marche mondiale des femmes qui nous mobilise tous et toutes. Et donc là, on travaille ensemble, on chemine vers un projet commun, comme vous le savez, la marche qui va se terminer au Sud Kivu, au Congo.
Soizic, peut-être rajouter quelque chose?
Moi, je suis aussi la marche mondiale pour Vie Féminine, donc vous l'aurez compris, on fait partie, on se retrouve dans ce groupe commun, sur ce projet commun, et à Vie Féminine, donc je suis à la coordination nationale où je m'occupe des questions plus internationales notamment, d'où la marche mondiale.
Donc vous l'aurez compris, ce qui nous amène ici, c'est la poursuite de ce focus sur la marche mondiale des femmes. Elle avait fait une belle manifestation le 6 mars dernier à Bruxelles. Et donc, pour justement vraiment amener toute notre énergie, nos pensées et nos actes en solidarité avec les femmes du Congo et particulièrement les femmes du Kivu, nous faisons une émission un peu par rapport à cette rencontre de la Marche mondiale des femmes qui aura lieu en octobre prochain au Congo et donc dans la province du Kivu. Le fil conducteur de cette émission est particulier puisque l'une des revendications de la Marche mondiale des femmes, c'est de cesser la violence et d'œuvrer pour la paix. Et comme vous savez, au Congo, on entend souvent parler de violences sexuelles à l'égard des femmes congolaises. Alors il faut savoir que ça n'est pas propre au Congo puisque pendant les guerres, ce sont des drames qui arrivent assez souvent, comme les guerres en Yougoslavie ou même Seconde Guerre mondiale en Europe. Et puis, on peut penser à d'autres faits historiques, on y reviendra. Alors, c'est important de parler de ces violences sexuelles, car on peut considérer que ce sont des armes de guerre. Et malheureusement, aujourd'hui, elles restent encore fortement impunies. Mais nous n'allons pas seulement voir les femmes comme des victimes, parce que c'est clairement des victimes. Nous allons aussi essayer de comprendre quels sont leurs rôles et leurs implications dans la société congolaise, et notamment aussi les raisons du conflit armé du Congo. Et puis surtout, ce qui nous importe en tout cas dans la Marche mondiale des femmes, c'est de s'unir contre l'injustice et des tragédies humaines, et de vraiment développer des stratégies de résistance et des stratégies de survie. Et donc je suis vraiment très heureuse de vous avoir parmi nous ce matin, pour pouvoir venir un peu plus au fait sur le Congo et informer nos éditeurs et nos auditrices des raisons pour lesquelles on parle de violences sexuelles et aussi pourquoi ça se passe au Congo. Alors, si nous faisons cette émission, c'est parce qu'aussi l'année dernière, lors de la semaine d'études de vie féminine, nous avons eu vraiment l'honneur d'entendre une intervention tout à fait improvisée, intempestive, mais qui nous a toutes beaucoup interpellées et beaucoup... troublés, ou en tout cas ça nous a renvoyé à des questions, à des interrogations sur justement ces violences au Congo. Et cette intervention, nous la devons à Marie-Josée, qui a fait vraiment une intervention assez, assez forte, tout à fait hors propos, hors cadre, mais c'était important de l'entendre. Et donc, comme elle ne peut pas être là aujourd'hui, je vous invite à écouter ce tout petit extrait de 1 minute 15, et elle fait référence à un film de Thierry Michel, un réalisateur belge. Il a beaucoup travaillé sur le Congo, notamment avec des films documentaires de toutes sortes. Je vous invite à l'écouter.
Le film de Congo River, on montre un petit extrait de filles qu'on a enlevées, coupées, les organes génitaux, et puis on leur a enfoncé des morceaux de fer, des morceaux de bois. Tout ça, le média, le monde n'en parle pas. C'est pourquoi j'invite le mouvement féminin, l'association Espace des femmes, de se mobiliser pour faire une marche vers Bukavu au mois de novembre. Et tout cela, je le dis, pas pour blesser, pas pour faire quoi que ce soit, mais qu'on se mobilise pour que le monde sache ce qui se passe au Congo. 5 millions de morts et le monde est muselé à cause des coltans, à cause des diamants, à cause de l'or, et le Congo, le Rwanda est l'endroit où passent tous ces minéraux. C'est pourquoi que le monde est muselé. Donc, moi je vous fais part de la petite expérience, de la petite connaissance que je connais, parce que l'ignorance, c'est ça qui pousse aux gens de se taire. Merci.
Et donc, voilà déjà un premier éclairage qui nous amène à cette émission. Alors peut-être je vais passer la parole à mes invités avec une question, peut-être d'ouverture, pour un peu comprendre les faits, ce qui se déroule. Officiellement, la guerre au Congo a cessé depuis 2006. Officiellement donc, la paix est revenue, mais par les informations et notamment beaucoup d'ONG qui travaillent au Congo ou d'autres membres de la société civile, on a entendu parler de l'assassinat récemment d'un illustre personnage qui défendait les droits de l'homme au Congo. Et donc quelque part, voilà, la paix est revenue, mais les conflits persistent. Il y a toujours des affrontements armés entre hommes en armes et la population, ou en tout cas les soldats congolais et rwandais. Et donc la persistance de ces faits de guerre et aussi la persistance des violences sexuelles à l'égard des femmes nous pose question. Et donc nous avons en tout cas envie de poser la question de pourquoi le conflit persiste-t-il au Congo depuis maintenant 15 ans.
Est-ce qu'on peut parler de conflit encore à l'heure actuelle? Est-ce qu'on est encore dans une situation de conflit malgré cette officiellement sortie de la guerre? Enfin, les nouvelles qui nous viennent, enfin, on entend toujours parler, oui, de déplacés, de violences, de faits de guerre, d'hommes en armes. Qu'est-ce qu'il en est de la situation à l'heure actuelle?
À l'heure actuelle, c'est vrai que la question est pertinente. Et pertinente pourquoi? Parce qu'il faudrait aussi mettre l'accent sur une chose. Les gens parlent souvent de violence utilisée comme arme de guerre, mais il faudrait souligner que c'est une tactique On a entendu l'intervention de Marie-Josée qui a mis en avant donc le nombre de morts que je salue, ainsi que je salue la mémoire aussi de tous ces combattants pour la liberté et pour combattre aussi l'ignorance et le musellement des opinions. Je pense à Floribert, à sa femme, ses enfants, ainsi qu'à de nombreux journalistes qui encore aujourd'hui subissent des pressions parce qu'ils osent dénoncer. Dénoncer l'innommable, parce qu'évidemment en 2006 nous avons eu des accords de paix, nous avons eu officiellement donc les armées, si on peut appeler ça ainsi, parce qu'il s'agit tout de même de près de 30 groupes armés nationaux et internationaux, j'insiste bien, qui se battaient sur le territoire congolais. Aujourd'hui encore, c'est vrai, sans pour autant minimiser la douleur des familles et des victimes au nord et au sud Kivu, il faut souligner qu'à l'heure actuelle, en Ituri et en Ouélé, se passe aussi une situation dont on ne parle pas, qui est aussi du même degré d'intensité, même voire plus que ce qui se passe à l'instant. Les populations vivent dans une terreur, surtout dans ces coins-là. Lorsque nous, en tant que société civile, en tant qu'activistes, on entend qu'il y a notamment des groupes armés, des anciens combattants qu'on déplace dans le nord Katanga pour, je veux dire, créer un espèce de pont de la paix, nous sommes inquiets. Inquiets parce que, pour nous, la guerre est finie, mais le conflit persiste parce que dès que les armes se taisent, il y a une guerre plus insidieuse qui continue sur le corps des femmes, des petites filles, des hommes aussi, malheureusement, selon les rapports qui nous parviennent, on les viole et lorsqu'ils ne veulent pas s'accomplir, on leur coupe la main. En sachant que les femmes sont le pilier de la société congolaise, 80% de la population travaille dans l'agriculture, dont près de 50% de femmes, paysannes, agricultrices qui apportent non seulement leur contribution à la cellule familiale et aux communautés, parce qu'il y a tous nos marchés locaux qui sont alimentés par ce flux informel de la force des femmes, on peut pas nier que lorsqu'elles sont violées, qu'elles sont violentées, il y a une volonté justement de déstabiliser le tissu social. Et aussi, en plus de pourquoi on parle de conflits qui demeurent et qui persistent, parce que ces femmes, les violences qu'elles subissent sont multiformes. En plus de n'avoir pas accès à leur liberté, à l'intégrité physique et morale de leur personne, on leur prive aussi le droit à la subsistance, à l'accès aux ressources. Donc c'est ça, Sabine me complétera sûrement, c'est au moins une piste de démarrage pour comprendre, essayer de comprendre un peu ce qui se passe en RDC à l'heure actuelle.
Je crois que Madi, elle a fait le tour de la situation. Et si je peux ajouter, répondre concrètement à la question, la guerre est finie, le conflit persiste. Oui, le Congo n'est pas un pays en guerre. C'est pas nous qui le disons, même les autorités congolaises le disent. Mais la réalité n'est pas vraiment la réalité de la paix. Et je voudrais ici répondre directement en citant les activistes congolais eux-mêmes. Madi, tu te souviendras que nous avons organisé en novembre 2009 une rencontre avec une activiste, Grace Lula, et où Julienne Lusenge a participé. Grace Lula, qui dirige une organisation des femmes, la Ligue des femmes pour la liberté et la démocratie au Congo. Nous l'avons organisée ensemble avec le CNCD 1111 où je travaille. Et Grace Lula nous a dit, quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à partir d'ici? Et toutes les deux, que ce soit Julienne Lucien, que ce soit Grace Lula, elles nous ont dit, il faut d'abord en priorité sécuriser les activistes des droits humains, parce qu'elles courent un danger. En même temps qu'elles dénoncent les violations, en même temps elles-mêmes elles courent les risques de ne plus exister et de ne plus parler. Et là, je voudrais dire que le mois passé, j'ai eu à rencontrer Floribert, que nous sommes en train de plaire, Tchebeya. Et je suis allée dîner avec lui et il a dit la même chose. Il a dit la priorité maintenant, c'est la paix et la paix passe par la protection des activistes des droits humains. Floribert a été assassiné dans la lutte du 1er au 2 juin. Je lui ai parlé le 31 octobre, j'ai encore son email, où il demande le 31 mai plus tôt. Et je lui ai parlé encore le 1er juin le matin, et où il demandait d'organiser une rencontre le 23 juin, ici à Bruxelles, avec les organisations et les associations pour parler justement de la situation des droits humains. Et je m'amusais à lui dire, comment veux-tu que je te présente? Et il dit, il me dira, tu n'as qu'à écrire que je suis le président de la Voix sans voix, le reste n'a pas d'importance. Et donc aujourd'hui, on est vraiment très triste de savoir que les sans voix ont perdu leur voix. Et c'est la situation. Et lui-même le disait toujours, si vous et moi, aujourd'hui, nous n'avons plus la vie, le monde entier va en parler. Mais tous les Congolais et toutes les Congolaises qui subissent les violences, qui meurent tous les jours dans le silence, c'est pour eux et pour elles que nous devons nous battre. Et parmi ces victimes de plus de 5 millions de morts, il y a les femmes. Madi l'a dit, il y a les femmes, et dans l'extrait que nous avons entendu, il y a toutes ces atrocités. Et j'ai eu l'occasion de me rendre dans le sud Kivu par mon travail. Nous avons eu l'occasion avec Madi de nous rendre à Bujumbura, rencontrer les associations des femmes du nord et du sud Kivu. Ces atrocités, parfois on n'ose plus les raconter parce que parfois les gens pensent qu'on raconte, qu'on exagère pour attirer l'émotion ou pour... Mais quand on les voit et quand on l'entend, ça dépasse l'entendement humain, c'est pourquoi... Vraiment, c'est le courage de la Marche mondiale des femmes de dire on va clôturer cette marche au cœur même de la violence. Et ça, c'est vraiment le courage qu'il faut saluer. Et on, nous remercions, nous sommes tous de la Marche mondiale des femmes, mais c'est vraiment un acte de soutien pour la population du Sud Kivu et surtout les femmes, un acte de courage, de détermination, et nous espérons que par ces gestes, le monde entier pourra faire comme la Marche mondiale des femmes, marcher vers le Kivu, vers le Congo, pour qu'enfin ces pays connaissent la paix.
Alors, je vous remercie beaucoup de cette première et intense explication. Nous allons faire une petite pause musicale pour avoir l'occasion un petit peu de, d'une part, d'écouter bien la mélodie d'un musicien congolais dont je vous parlerai après la diffusion, et aussi pour avoir l'occasion bien de réfléchir à tout ce qu'on a déjà entendu. Et donc nous avons longuement écouté Wendo Kolosoy, c'est un musicien congolais. L'album s'appelle Banaya Papa Wendo et c'est publié par Sowarex, le label Igloo, promoteur de la communauté française de musique du Congo. Et donc ça date de 2007, c'était bien avant la publicité qu'on fait autour de cette terreur persistante au Congo. Et donc je retrouve mes invités, Madi Tiembe, Sabine Kakunga et Swazik Dubo, moi-même Tamara, pour l'émission Elles en parlent encore de vie féminine Bruxelles. Et donc c'est l'occasion peut-être de revenir sur ces violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, ou en tout cas comme tactique de guerre. Et peut-être que il est important de comprendre qu'est-ce qui fait que des hommes en armes utilisent le corps des femmes comme tactique de guerre. Donc c'est un sujet délicat, difficile, mais important à mon avis pour comprendre aussi l'enjeu qui se déroule là, au Congo, mais aussi partout ailleurs dans le monde, puisque je vous disais à l'instant, au début de l'émission, que les violences sexuelles à l'égard des femmes n'est pas un fait propre au Congo, mais plutôt se retrouvent dans différents conflits, situations de guerre, comme la guerre en ex-Yougoslavie qui a duré de plus ou moins 92-94 à jusqu'à la fin, à la guerre du Kosovo. On pourrait parler également des femmes japonaises utilisées, enfin que les Japonais utilisaient pour satisfaire les soldats et leurs autres satisfactions qui ne sont pas que des satisfactions entre guillemets sexuelles. Il y a aussi les Sabines enlevées à Rome. Alors là, je vous parle d'une époque qui est déjà révolue puisque je vous parle de l'Antiquité. Et donc voilà, c'est la question, c'est comment ça se fait que des hommes en armes commettent des actes d'une grande brutalité sur les femmes. Alors là, on parle du Congo, mais peut-être il est important aussi de ne pas en faire un fait culturel, mais plutôt de montrer peut-être d'autres rapports, rapports de domination, peut-être on peut déjà dire le mot pour aller un petit peu plus loin. Je laisse mes invités et Soizic Dubot peut-être réagir.
Oui. Bon, en tout cas, il y avait tout à l'heure, un peu plus tôt, Madi a parlé aussi, a voulu faire une distinction entre armes de guerre et tactiques de guerre dans cette manière de prendre pour cible les femmes. Et tu as mentionné le rôle des femmes aussi dans la société congolaise. Est-ce que tu peux peut-être développer ça? Est-ce que ça, c'est une explication une des explications sans doute qui fait en sorte que les femmes soient massivement, et ça a l'air d'être, oui, vraiment massif, prise pour cible?
En fait, d'explication, non, parce qu'on est face vraiment à l'innommable. C'est vrai que ce sont des pistes de réflexion, des pistes que nous avons recueillies suite aux nombreux témoignages et aussi aux constatations sur le terrain. C'est que, le scénario reste le même, qu'il soit au nord, au sud Kivu, en Ituri, le scénario reste le même. On arrive dans un village en pleine nuit, où ça peut être aussi la journée, on cible directement les femmes, on les viole, et puis... Quand on parle de tactique, c'est exactement ça. Donc directement, on se jette. Je dirais, là, on est face à des bêtes sauvages, qui se jettent sur les femmes, qui se jettent sur les petites filles. Les plus vieilles aussi, parce qu'il faut aussi voir, au-delà de tout ça, il y a la symbolique de pouvoir être le plus fort, d'avoir des relations avec une personne âgée qui soi-disant va vous donner plus de pouvoir de traverser les balles. Il y a aussi ces croyances qui sont là. Il y a aussi le fait que de brutaliser un bébé, de brutaliser une petite fille, eh ben ça va vous donner aussi de la force, plus de vigueur. Ça va aussi vous protéger contre le mauvais sort. Il y a toutes ces espèces d'images qui demeurent, qui font que cette tactique reste. Elle reste une. Ensuite, cette arme. Parce qu'en sachant que une fois qu'on a violé ces femmes, une fois qu'on a violé ou on a obligé un père à violer sa fille, sa femme, ou d'avoir des relations avec un autre homme, on sait très bien que la société, cette communauté est complètement amorphe. Je n'ai pas été violée, mais ce qu'on constate avec les victimes, c'est un traumatisme. Un traumatisme qui fait qu'elles sont emmurées en elles-mêmes. Ils sont emmurés, ces hommes. Ils ne savent plus, ils sont émasculés. Ils ne savent plus pouvoir s'adonner aux activités. Donc c'est pourquoi on parle doublement d'armes et de tactiques. Et c'est ça que nous essayons de combattre, de comprendre, parce que ces armées, et au-delà de tout ça, il y a aussi un terme très dur que j'ai entendu de la part de certaines victimes dans le sud et le nord Kivu, c'est que on parle de l'autre. Donc l'autre, ce sont ces forces armées étrangères, rwandaises pour la plupart, qui sont venues sur le territoire congolais après le génocide de 1994. Ces personnes qui n'ont plus de pays et qui s'adonnent à cette terreur sexuelle abominable, qui revendiquent un ancrage congolais, qui font des enfants de force à des filles et des femmes congolaises, qui s'approprient les terres. Donc il y a toute cette problématique qui doit pouvoir être analysée au niveau multiforme, multidimensionnel. Mais il est vrai que les violences sexuelles utilisées comme tactique et armes de guerre, et aussi l'esclavage, parce qu'il faut aussi le souligner, ces agresseurs, quand ils se retrouvent dans la forêt, ils se retrouvent à porter, ils ont besoin de porteurs pour leur sac. Ils ont besoin de cuisiniers, ils ont besoin de petites mains, ils ont besoin de gens pour aller couper du bois. Donc il y a des victimes qui restent 5-10 ans dans la forêt, parce qu'on parle quand même d'un conflit qui est larvé depuis 94, et puis ensuite en 97, et puis en 2002, en 2004, en 2006. On a encore toutes ces images et ces récits de villes, Makobola, Kiwanja et autres, Goma, Bukavu, qui nous glacent encore le sang, parce qu'il y a énormément de victimes. Oui, on les salue, mais comment le monde peut laisser sans protection 60 millions d'êtres humains? C'est ça justement notre question. Et c'est ça qui nous alerte tout le temps, quoi.
Et moi, j'avais aussi entendu, enfin, des témoignages qui ont été relayés par différents organismes, par des personnes qui connaissaient la situation. Il y a des violences qui sont vraiment extrêmes, qui détruisent complètement, qui détruisent physiquement. On l'a souligné, qui détruisent physiquement les femmes. Mais qu'il y avait aussi un autre aspect, c'est des femmes qui, dans certains cas, étaient chassées de leur famille, qui se retrouvaient sans rien, enfin, qui se retrouvaient sur les routes. Est-ce que vous avez...
Oui, je pense que, comme Madi l'a dit, la violence envers les femmes, on peut certainement répondre à ta question, que les femmes qui sont chassées, par exemple, de leur famille, à ce moment-là, faire un lien évident avec le statut de la femme dans la société. Le statut de la femme dans la société, on peut le prendre de deux manières, que ça soit le statut valorisant ou dévalorisant, les deux, on peut émettre un lien avec la violence qui se fait sur les femmes. On prend le cas des femmes qui sont chassées après qu'elles soient violées. Elles ne l'ont pas cherché, elles ont subi les violences, et puis après, elles subissent encore de la communauté. D'abord, relativiser, hein, elles ne sont pas automatiquement chassées des familles. Il y en a qui continuent à vivre avec leur honte, avec leurs blessures, et la famille reste encore les piliers sur lesquels ils peuvent se reposer parce que les structures d'accueil, les structures de soins et tout ça, il n'y en a pas pour toutes les femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces femmes-là? Ben là, je voudrais faire un lien direct avec les statuts valorisants autour des mamans. On est maman quand on est une femme avec des valeurs, avec des normes que la société considère comme étant des valeurs et des normes, et la femme, c'est autour d'elle que se fait la vie. Et quand on a détruit le corps de la femme, on a détruit la vie. Et surtout avec l'image de la femme, qui est une femme qui doit être une femme pure, qui doit être une femme vierge, qui doit être une femme fidèle à son mari, fidèle à sa famille. Et quand il y a un intrus qui a touché à cette femme, dans sa moralité, dans sa physique, eh bien, la famille, certains qui ne peuvent pas, ne peuvent plus voir en cette femme l'image idéale, entre guillemets, qu'elle représentait au sein de la famille, au sein de la société. Et je prends un exemple concret de moi, mis de cabaret, lors d'une mission, qui nous répondait, qui disait, mais qu'est-ce que vous voulez encore quand elle a été violée? On ne peut plus donner la dot. On ne peut plus donner la vache, symbole de la dot. On ne peut plus, aucun homme ne peut plus l'avoir. Alors, cette femme, c'est comme si, entre guillemets, elle n'avait plus de valeur. Et donc, là, c'est une conséquence déjà liée à son statut qu'on a idéalisé dès le départ. Et quand ce statut n'est plus, parce qu'il y a eu le viol sur le corps de la femme, il y a le viol qui entre dans le mœurs, et la femme, entre guillemets, elle perd sa valeur. Et l'autre volet, c'est le statut de domination dont Madi a parlé, la domination qui fait que la femme est considérée dès le départ comme un objet qui va porter les armes pour aller dans la forêt, qui va faire tout, qui toutes les charges, qui va prendre les petits soins de ces militaires. Et on ne va même pas la respecter ni la considérer parce qu'elle fait déjà ça. En plus de cela, on peut faire d'elle ce qu'on a envie de faire. Et donc, moi, je voudrais dire que le statut de la femme dans la société contribue d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas être valorisée. Elle doit être valorisée pour ce qu'elle est comme être humain. Et en plus, quand elle a subi les violences, elle ne perd pas sa valeur. Elle reste un être humain qui doit se reconstruire, et la société doit lui tendre la main pour se reconstruire. Il y en a qui le font, mais ça, c'est vraiment comme un couteau de double tranchant. Qu'elle soit valorisée ou dévalorisée, elle est le théâtre de la guerre, et c'est pourquoi on parle de la femme arme de guerre. Et aussi par elle, on voudrait atteindre la famille, on voudrait atteindre la communauté. Dans nos expressions, ça se dit. Quand on a détruit le foyer familial, on passe toujours par la maman qui rassemble, la maman qui éduque, la maman qui transmet, qui socialise. Donc c'est aussi volontairement qu'on utilise la femme comme arme de guerre pour atteindre l'ennemi, pour faire très mal. Et faire très mal au corps de la femme, faire très mal aussi à la société.
Et ça c'est quelque chose qui est assez fort, quoi, qui est assez aussi bouleversant, et qui, qui nous parle, je pense, à toutes directement. Et c'est de voir comment ces images, ces représentations aussi, tu parlais donc là, tu évoquais la pureté, la fidélité, et donc des images, des représentations qui sont présentes, enfin, qu'on trouve aussi dans la société en Belgique. Enfin, on a ces mêmes images, on a toujours ces représentations par rapport au viol. Bah, toujours ce doute, est-ce que si on apprend qu'une femme a été violée, c'est toujours ces questions, mais est-ce que c'est pas un peu de sa faute? Est-ce qu'elle l'a pas un peu provoquée? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi elle était habillée comme ça? Et cette image de salissure qui en ressort, qui reste là sous-jacent. Et là, de voir comment des images, des représentations alliées à cette place que vous soulignez toutes les deux de femmes comme pilier de la société, comme centre, qui permet aussi encore plus de les prendre pour cible pour atteindre la communauté, donc au-delà des femmes, d'elles femmes elles-mêmes, quoi. Mais comment ça s'allie et donc d'où cette expression de tactique de guerre qui permet quelque part d'atteindre ce qui n'a pas pu être de gagner ce qui n'a peut-être pas pu être gagné par les armes directement, quoi.
Tout la à violence fait. Vient... C'est très insidieux, et je compléterai parce que c'est vrai qu'on s'est attaché aux valeurs sociales, familiales, communautaires et même nationales. On oublie aussi l'aspect économique, parce que l'aspect économique, comme je l'ai bien dit, ces femmes sont souvent agricultrices. Ces femmes, lorsqu'on vient s'adonner à toutes ces choses et de casser tout cela, ça fait qu'elles ne sortent plus pour cultiver. Elles ne vont plus au champ, elles ne vont plus au marché. Les jeunes filles, elles se cachent dans les maisons. Elles ont honte d'aller à l'école. Elles ont peur aussi d'aller à l'école. Les femmes n'osent plus aller monter dans un taxi s'il y a au moins deux hommes dedans. Donc il y a tous ces petits actes de la vie de tous les jours qui sont vraiment amputés. La force économique des femmes fait qu'elles cultivent. Mais qui récolte? Parce que ces gens ont faim. Ils font des razzias dans nos champs. Ça aussi, il faut le dire. Aujourd'hui, la conséquence immédiate, nos marchés sont peu ou pas approvisionnés. Parce qu'aujourd'hui, le prix des gosettes d'haricots ou même du manioc ont triplé. Ça fait le bonheur des exploitants économiques qui exportent, qui importent des denrées, mais pour le petit peuple. Parce que ici, on parle de gens de l'arrière-pays qui ont besoin de pouvoir, c'est-à-dire qu'on est encore dans une économie agricole. Donc il y a tout ce pan de la société qui est complètement par terre et qu'on doit relever. C'est pourquoi on dit à chaque fois, femmes, mettons-nous debout. On doit se mettre debout, on doit marcher jusqu'à ce que les femmes soient libres. Mais en ce moment, malheureusement, cette liberté d'aller, de faire, de ne pas faire, de refuser, de dire non tout simplement à ce que leur corps soit utilisé comme objet. Et ici, en cette période de mondial footballistique, il m'est obligé de pouvoir faire un clin d'œil aussi à toutes ces 20 000 femmes qu'on a, je veux dire, importées au mondial pour satisfaire qui? Elles seront arbitres? Elles seront... Je ne sais pas. Vous voyez, il y a tout ce statut de la femme, de notre regard, de nos valeurs. Quelles valeurs on veut mettre dans la femme? C'est ça aussi, toute cette interrogation qui, évidemment, trouve son paroxysme au Congo avec toute cette absurdité. Mais il y a vraiment, vraiment une interrogation au bout de toutes ces années de lutte et de guerre. Donc, voilà, quoi, de lutte féministe, j'entends.
Alors, je voudrais juste ajouter, Madi l'a bien souligné, on oublie l'aspect économique et on oublie aussi la violence faite aux femmes en dehors des zones de conflit, entre guillemets. Et c'est ça aussi que nous devons combattre, cette idée de dire c'est culturel, c'est très énervant, parce que quand on commence à dire ça, c'est comme si on voulait banaliser ça, c'est comme si on voulait dire ça fait partir de le vivre ensemble entre les hommes et les femmes. Depuis les traditions, n'a jamais été fait de tels actes de violence et de barbarie comme on les vit maintenant. Et donc, cette violence en dehors des zones de conflit, elle a l'origine de ces cette démobilisation qui a complètement échoué, où on a largué les militaires partout dans la République. Il n'y a pas de casernes, on les a démobilisés, ça a échoué. Et ils sont là, parfois sans armes, parfois avec leurs armes. Et on trouve même dans des quartiers comme Kinshasa, beaucoup d'actes de violence qui sont même dans les écoles et même par les civils. Et donc, il n'y a pas que les hommes en armes, comme on l'a dit à l'introduction, il y a aussi tous ces problèmes socio-économiques qui font que les gens font de cette violence faite aux femmes et aux petites filles comme si c'était vraiment quelque chose pour se défouler de cette misère socio-économique qui les frappe. Et donc, ça n'a rien à voir de culturel. Ça, ce n'est pas seulement dans les zones de conflit. Ça s'étend dans toute la République. Et la seule manière, c'est d'abord, non seulement c'est de dénoncer, mais c'est aller vraiment à la source, à la cause. Et je suppose qu'on en reviendra à la suite de la mission. Pourquoi le conflit persiste? Pourquoi il n'y a pas la paix? Quel est le problème? Ce n'est pas seulement les Congolais qui ont perdu la tête ou les militaires seulement en armes, mais il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants et on en parlera, je suppose, dans la suite de l'émission.
Alors, on va faire une petite pause musicale avec un produit radiophonique qui nous vient du Congo, de la République démocratique du Congo, grâce aux bonnes œuvres d'une ONG qui essaye de faire de l'information et de la justice son créneau. Je ne connais plus exactement le nom de l'ONG, mais ça n'a pas d'importance. L'intérêt, c'est la mission qu'il mène.
RCN
RIJ, R-I-R-I-J, enfin, R-I-J.
Alors, RCN, Justice et Démocratie, fait un travail par rapport à la justice, et puis R-I-J, c'est plutôt par rapport à l'information et utiliser la presse aux radios comme vecteur de communication et de messages. Et là, c'est un programme où ils ont fait appel à des musiciens, des groupes musiciens, de jeunes groupes musiciens, pour justement faire des chansons qui appellent à la réflexion, qui appellent à se reposer des questions de morale, et notamment de comment on regarde les femmes, les filles. La chanson s'appelle « Femmes publiques », et donc je nous invite à l'écouter. Évidemment, c'est comme pour la musique rap ou hip-hop, il faut l'écouter plusieurs fois pour en saisir le sens et le contenu, notamment parce qu'il mélange le français et le lingala. Et donc voilà, les auditeurs seront satisfaits de se retrouver devant ce beau mélange. À tout de suite.
À toutes les mamans de Sophie Patti, Fomi, Fama, l'orchestre MGD dédie cette chanson pour votre lutte dans la promotion de la femme. Wow!
À la discrimination à l'égard de la femme,
exerçons toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement
et la pleine participation de la femme
au développement de la nation.
Son droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique.
Libre ses droit de prendre librement ses décisions. Prenons des mesures pour lutter contre toutes formes des violences dans la famille, dans la vie publique et dans la vie privée. Sa liberté de conscience, son autonomie morale et son droit de prendre librement ses décisions.
Et donc, nous écoutions un groupe de la République démocratique du Congo qui a participé à un programme de diffusion radiophonique avec de la musique, fait culturel important au Congo et partout en Afrique, pour justement utiliser la musique en vue de vraiment lancer un message sur la situation et le regard qu'on porte sur les femmes, puisque nous sommes à l'émission Elles en parlent encore de Vie féminine Bruxelles, autour du programme La Marche mondiale des femmes, en solidarité avec les femmes de la République du Congo et en particulier celle du Kivu, puisque la Marche mondiale des femmes s'arrêtera à Bukavu du 14 au 17 octobre prochain, donc c'est dans quelques mois. Et donc cette émission est vraiment pour lancer notre contribution à cette Marche mondiale des femmes. En présence de Madi Tiembe, Sabine Kakunga et Swazik Dubo, nous allons progressivement arriver à la conclusion de notre émission et peut-être revenir sur un élément, c'est que nous avons parlé de la violence sexuelle à l'égard des femmes comme une tactique de guerre et puis comme une arme de guerre, et peut-être quand on a entendu tout ce dont nous avons parlé avant la pause, il y a vraiment une raison peut-être économique qui pourrait permettre de comprendre aussi pourquoi tant de violence et tant d'atrocités sexuelles contre les femmes. D'une certaine manière, on parlait du traumatisme physique et moral vécu par les femmes, et aussi du fait que tout d'un coup elles deviennent apathiques, impotentes, handicapées entre guillemets, et que quelque part, le fait que ça persiste comme ça, que l'insécurité, que la terreur font que les gens restent chez eux vraiment inquiets de ne pas avoir confiance en l'autre et aux autres, ça favorise quand même une situation où les femmes ne cultivent plus les champs, ne sortent plus, et où petit à petit, peut-être la conséquence indirecte, c'est pour ça qu'on, je pense qu'on peut parler de tactique de guerre, c'est-à-dire que c'est des hommes en armes ou des civils qui commettent des atrocités sur les femmes, et donc c'est les femmes qui vont être le déclencheur, c'est-à-dire que si elles ne sortent plus cultiver le champ, si elles ne vont plus au marché, si elles sont ostracisées, bannies par leur communauté, eh bien elles vont partir. Et les femmes étant piliers de la société congolaise, mais à mon avis c'est beaucoup dans le monde entier, elles sont la personne ressource de subsistance, elles vont partir. Et du coup la terre, le champ, la pâture, la prairie sera laissée désert. Et donc potentiellement source d'exploitation minière à l'abri des regards. Puisqu'il n'y a plus personne pour voir, pour dénoncer, eh bien on peut utiliser le territoire pour en extraire les ressources naturelles. Le Congo est un pays très 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 riche en matières premières. Et c'est vrai que notre enregistrement de début d'émission avait soulevé que le coltan, le cuivre, l'or, le diamant se trouvent au Congo. Et que ces éléments-là sont extraits et exploités, et à l'insu de la population, et surtout à l'insu de notre information. On est très peu informés de cette situation. Et ça peut être, ça ne touche pas les gens directement, bien sûr. Nous, on parlait de violence sexuelle, et puis je vous parle d'exploitation minière. La relation n'est pas directe, mais sans doute dans notre conversation, et en réécoutant notre émission en podcast sur le site de Vie Féminine, vous pourrez un peu mieux comprendre ce que je dis là. Et donc, quand on fait cet état des lieux-là, quand on part de cette hypothèse que créer le chaos et favoriser l'exode des populations, c'est aussi exploiter, peut-être se demander au quotidien, pour les femmes, quelles sont les pistes de solutions ou quelles sont les solidarités qu'il faut mettre en œuvre pour permettre à ces femmes victimes de violences sexuelles de ne pas rester dans le silence, dans l'oubli. Et donc je renvoie la parole à Madi Tiembe, Swazik Dubo et Sabine Kakunga pour peut-être réagir sur la suite, pour ne pas rester les yeux en larmes et la bouche clouée.
Swazik et Madi permettent que je commence, je pense que vous résumez bien la situation. Et juste revenir sur le fait que la situation économique, même les hommes en armes dont on a parlé, Il y a des groupes en armes qui se sont constitués juste pour contrôler les mines. Donc il y a bien un lien direct entre l'exploitation des ressources du Congo et la violence, et la violence faite aux femmes. Le grand enjeu des groupes armés, c'est pas d'abord de se battre militaire contre militaire, mais c'est d'abord de contrôler les ressources. Et encore que ces ressources contribuent encore à entretenir la situation des conflits, à acheter les armes. Ça c'est aussi une question, quand on parle comme ça, c'est pour dire qu'une des pistes aussi, c'est de contrôler la vente des armes qui continue et qui circule, en tout cas dans la région. Et reconnaître aussi qu'il y a aussi la concurrence des bailleurs de fonds. La concurrence des bailleurs de fonds, plutôt que d'aller chercher la solution très structurée et très concertée, chacun veut garder son petit monopole pour l'accès aux ressources naturelles. On ne doit pas se cacher. Donc, c'est l'enjeu économique énorme qui fait que tout le monde n'a pas intérêt à s'asseoir autour d'une même table et d'avoir comme seul objectif la paix, parce qu'il y a l'enjeu économique énorme qui fait que non seulement les groupes armés se font concurrence autour de ces ressources, mais les bailleurs de fonds se font aussi concurrence autour de ces ressources. Et donc, quand on commence à aller
les
au cœur...
Les bailleurs de fonds, c'est les clients pour acheter l'or?
Les bailleurs de fonds, ce sont des Occidentaux qui sont les partenaires du Congo. Comme on le sait, le Congo, c'est un pays qui vit à plus de 80% grâce à l'aide extérieure. Et cette aide extérieure, quand j'appelle bailleurs de fonds, c'est tous les financiers qui sont censés être les amis du Congo, mais qui se font aussi les concurrences autour de ces ressources. Et donc la question de la paix, ce n'est pas seulement une question qui va se résoudre comme ça, mais il faudra que tout le monde s'asseye autour de la table et pense d'abord à l'intérêt des Congolais, à l'intérêt des femmes. Et ça, ce n'est pas gagné parce qu'il y a les enjeux économiques énormes. Et aussi, je voudrais dire que cette violence dont nous avons parlé dans d'autres territoire. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la démobilisation qui a complètement échoué. J'ai évoqué tout à l'heure la question de tous ces désœuvrements, la crise, le chômage. Mais il y a aussi le fait que si ne fût-ce que dans des villes, je parle des villes, je ne parle pas encore des villages, si ne fût-ce que dans des villes, il y avait un robinet d'eau potable au vide de tout le monde, que les petites filles ne sont pas obligées de courir dans l'obscurité pour aller chercher de l'eau. Je prends par exemple les populations du Kassai à Kananga, la dernière fois que j'étais en mission pour le CNCD, le plus grand drame des viols des filles là-bas, c'est quand elles vont chercher de l'eau parce qu'il n'y a pas de l'eau potable dans la ville. Et donc là, les filles, sur les trajets, elles courent ces dangers des viols tous les jours, tous les jours. Donc, je voudrais mettre un lien ici entre le développement socio-économique du Congo et la solution de la paix durable, et aussi la solution de paix durable qui nous amène vers la solution donc d'éradiquer les violences faites aux femmes. Non seulement elles courent pour cultiver, mais elles courent pour chercher de l'eau. Elles courent aussi au marché à Kinshasa, dans les périphéries de Kinshasa. Toutes ces femmes qui vivent de l'agriculture urbaine et des commerces, elles courent tout un danger aussi. Et je voudrais, avant de passer la parole donc à mes collègues, dire que pour les femmes, sortir, c'est vrai que cultiver, elles s'occupent de la famille, mais c'est aussi une très grande liberté. Moi, je me suis toujours insurgée quand je vais dans les colloques, quand je dis les femmes sont soumises, oui, elles sont soumises, mais au moins, les femmes congolaises traditionnelles qui ne sont pas dans des familles très bourgeoises, sortir, c'est une grande liberté pour elles. Elles sortent tôt les matins, elles rentrent les soirs sans surveillance des personnes. Mais maintenant, on entend des solutions de dire, parce qu'elles se font violer, il faut qu'elles soient accompagnées des hommes, il faut qu'elles vont être surveiller, il faut simplement arrêter la guerre, qu'il y ait la paix, qu'elles aient cette liberté depuis les ancêtres, où elles ont toujours navigué entre les rivières et les champs, entre elles, entre femmes, dans toute liberté, et cette liberté est en train d'être retirée aux femmes. Et moi, les solutions de dire qu'on doit les encadrer pour qu'elles puissent cultiver, pour les accompagner, tout ça, je pense que ce n'est pas une solution. Il faut qu'elles retrouvent la paix, et pour retrouver la paix, il faut la paix sur toute l'étendue de la République. Et pour cela, une des solutions, il faut former l'armée républicaine. On entend beaucoup dire que l'armée congolaise est à la source des problèmes. Oui, mais elle est à la source des problèmes. Mais il n'y a pas d'armée. Il y a des groupes armés qui ont été mis ensemble, issus de plusieurs groupes armés qui n'obéissent même pas à un seul commandement. Donc, il faut non seulement aider la reconstruction du Congo sans penser d'abord à la reconstruction régionale. Il faut d'abord la reconstruction du pays et il faut une armée républicaine, ramener la paix pour que les femmes vivent en toute liberté comme elles ont toujours vécu en toute liberté. Sans qu'il y ait trop de surcharge du travail, bien entendu. Ça, c'est notre volet du problème.
Moi, j'aimerais souligner, revenir sur la première partie là, de ton intervention par rapport à l'économie et aux ressources naturelles. Pour dire que j'ai fait cet exercice de prendre la carte des ressources naturelles et notamment minières du Congo et effectivement la carte géographique avec qui identifie la zone des Kivu et les zones voisines. Et donc, de voir cette superposition entre les zones où il y a ces violences et la richesse, les zones les plus riches où il y a ces richesses de minerais. Donc, enfin, en faisant cette superposition, ça semble évident, ou en tout cas, on ne peut que s'interroger sur les liens entre ces deux aspects et aussi sur, tu parlais aussi des bailleurs de fonds occidentaux et donc sur ces intérêts qui sont là-bas. On parlait tout au début de l'émission de coltan, notamment, qui est un minerai assez rare, qui est un minerai extrêmement utilisé dans les GSM, dans les ordinateurs portables aussi. Donc voilà, enfin pour marquer notre, enfin vraiment notre implication et ce filet beaucoup beaucoup plus large, quoi, ce nœud qui nous implique tous et toutes dans cette situation. Mais peut-être je peux te laisser la parole, Maddy, pour voir, parce que tu as pointé des pistes de sortie ou de problèmes auxquels s'attaquer.
Mais oui, parce que effectivement, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, parce que j'abonde vraiment dans le même sens. L'économie, on ne peut pas parler d'une économie juste d'un pays et qui ne se situe pas dans la réalité mondiale et globale. Aujourd'hui, c'est vrai que on nous parle du coltan, oui, parce que la demande, nous, on en a besoin. Nous, en tant que, citoyens occidentaux, citoyens de sociétés tout de même économiquement fortes, où nous consommons des portables, nous consommons des GSM, nous consommons énormément de choses dont le minerai principal, 80% de ce minerai se trouve au Congo. Mais à côté de ça, il n'y a pas simplement les minerais, il y a aussi la terre congolaise, il y a aussi l'eau, le bassin du Congo, il y a aussi ces énormes réserves d'arbres et même de, il y a tout ça. Le Congo est un scandale géologique. Les personnes qui ont utilisé ce terme ne l'ont pas utilisé à mauvais escient, parce que une fois que ces terres sont vidées de leur population, il y a des peuples qui viennent s'y installer avec leurs bœufs, et ce sont pas des bœufs congolais. Ils viennent paître sur les terres congolaises. Il y a aussi des éleveurs qui viennent avec toute leur famille pour s'y installer, parce que la terre du Congo est riche et fertile. Il y a aujourd'hui un grand débat sur les richesses halieutiques. On a bien vu en Équateur donc le conflit qui a commencé autour de l'occupation, de l'exploitation d'une rivière poissonneuse. Il y a aussi donc l'uranium. Aujourd'hui, nous voulons sortir du nucléaire, sortir soi-disant du nucléaire, mais nos dirigeants nous parlent de rentrer dans le nucléaire. Mais ce minerai, l'uranium, se trouve où? En abondance, notamment au Congo. Et c'est pourquoi nous, on en appelle au niveau de la responsabilité sociale des entreprises, parce que l'Union européenne est le premier, dans la coopération internationale, quand on fait le mapping de toutes les sociétés qui sont impliquées dans les trafics, officiels, ou dans le commerce officiel avec le Congo sur ces matières-là, on constate quand même que l'Union européenne, certains pays européens sont peu ou pas engagés. Donc l'Union européenne peut jouer un rôle et appuyer justement cette directive sur la responsabilité sociale. Parce que c'est une chose de vouloir qu'on rentre dans le nucléaire pour pouvoir fournir de l'électricité à une partie du monde, si l'autre partie africaine, notamment congolaise spécifiquement, est dans le noir. Le noir qui veut dire la misère, la pauvreté, Sabine en a parlé, les exploitations de tout genre, et puis cette liberté. On aspire aussi en tant que peuple à vivre libre. Cette liberté des femmes, tout simplement, parce que depuis, il faut s'y souligner. Aujourd'hui, moi, j'entre dans un GB, si j'ai envie de manger, des frites et des moules, je les achète. Mais une femme congolaise aujourd'hui, dans certaines familles, ils n'ont pas eu à fuir une fois, deux fois, ils vivent dans des camps de déplacés depuis 94 pour certains, 97, 2004, 2006, ça fait plus de 10 ans, où ils sont aux biscuits protéinés. Je vous mets au défi de manger des biscuits protéinés tous les jours. C'est pas possible d'instaurer une économie qui n'est plus de subsistance, mais une économie parallèle où les gens sont complètement retournés. Et voilà, c'est tout ça qui nous fait mal et qui vous fait comprendre pourquoi on est debout. Parce qu'il s'agit pas simplement de statistiques. C'est vrai que les chiffres sont là pour dire qu'on entend 5 millions de morts, 60 millions de gens sans assistance. C'est vrai que ça choque. Mais au-delà de ces chiffres, il y a des gens, des familles qui vivent, des enfants qui sont plus scolarisés. Donc il y a tout ce tissu qui n'est pas renouvelé. Donc voilà, c'est pourquoi j'en appelle vraiment à la responsabilité des dirigeants politiques, mais aussi des dirigeants économiques, parce que tout ce qu'on demande, c'est vrai, on peut pas non plus garder les richesses congolaises qu'à nous. Je suis d'accord. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est que quand on vient exploiter, écoutez, il n'y a pas de problème qu'on construise une usine pour raffiner le pétrole congolais. On peut aussi nous faire des usines pour aussi, au lieu de laisser nos femmes piler la cassitérite dans des mortiers, nous faire des usines pour filtrer tout ça et travailler. Offrir du travail à nos enfants pour qu'ils soient pas enfants soldats, qu'ils soient pas enrôlés, offrir du travail à ces jeunes qui rejoignent des bandes armées. Donc il y a vraiment de quoi faire au niveau humain au Congo. Mais il faudrait une volonté politique, économique et une volonté globale. Parce qu'il ne faut pas que nous, en tant qu'activistes, on ira marcher, c'est une bonne chose. On doit attirer l'attention des gens. Mais il y a aussi des choses qu'on peut pouvoir forcer. C'est vrai que si tous on arrêtait nos portables, ce serait vraiment une joie. Tous ces responsables pourraient se rendre compte qu'il y a une conscience mondiale sur cette problématique qui est économique, il faut le souligner, et qui entraîne des pertes humaines et aussi des catastrophes humaines, parce qu'on a parlé des femmes violées, des enfants soldats, on parlera aussi, Sabine l'a bien souligné, il y a toute cette impunité. Il faut aussi le dire, il y a l'impunité. Les pistes qu'on peut avancer, c'est vrai, mettre des moyens pour l'armée républicaine, mais aussi mettre des moyens pour la justice. Une justice indépendante, on a parlé de nos amis qui sont morts pour la liberté, parce qu'ils ont utilisé, il faut le dire, leur liberté d'expression, leur liberté de se mettre en association. Ce que nous jouissons aujourd'hui, j'ai la liberté de vous parler de ces choses qui me tiennent à cœur, parce que, voilà, nous sommes dans un pays libre. Mais là-bas, cette liberté peut porter atteinte à votre vie. Donc aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est tout simplement ça, cette liberté qu'on aimerait pouvoir avoir des enquêtes indépendantes, des enquêtes impartiales. On aimerait pouvoir avoir des magistrats qui sont bien payés, qui soient partout déployés dans toute la République, qui puissent assister même dans le plus petit village, comme l'a dit Sabine, même le plus petit village au fin fond du Congo, qu'on puisse avoir une autorité de l'État qui s'y exerce réellement. Donc c'est toutes ces choses qui nous tiennent à cœur et par-dessus tout, protéger nos amis. Parce que les informations qu'on vous dit aujourd'hui, on va sur place, mais ils nous informent, nos amis, défenseurs des droits humains, ils ont besoin du soutien. Autant les populations ont besoin de soutien, ils ont besoin d'une police qui soit indépendante et qui veille sur elle. Donc il y a tant de pistes, mais bon, je m'arrête là et voilà.
Je voudrais juste ajouter une piste importante, sinon on nous en voudrait de ne l'avoir pas dit. On aura beau réformer l'armée républicaine, on aura beau avoir une justice qui fonctionne, il faut vraiment, et c'est important, mais il faut que tous les groupes armés étrangers qui sont au Congo quittent. Tout le monde le sait. Il y a encore aujourd'hui des groupes armés, des militaires rwandais, ougandais qui sont au Congo, ils doivent partir. Et là, je pense que c'est aussi une mobilisation de la communauté internationale. Les Congolais le disent tous les jours, nous sommes le seul pays au monde qui a ouvert ses frontières et on a laissé toute une armée rentrer avec les armes lourdes. Ils sont là, les FDLR, comme on dit dans les montagnes du Kivu. On tergiverse, il y a la force de l'ONU, la plus importante au monde au Congo. Ça doit arrêter, il faut qu'ils partent et il faut sécuriser les populations civiles et il faut sécuriser les femmes, il faut ramener la paix. Pour ramener la paix, ça c'est une des conditions importantes. On ne peut pas reconstruire un pays avec des groupes armés dans l'armée. Ça ne se fait nulle part ailleurs au monde. Et ça c'est une demande que les femmes du Kivu où la marche mondiale des femmes va atterrir. Et moi je vous mets à défi que quand nous allons arriver là, la première chose qu'elles vont nous dire c'est celle-là. Parce que toutes les fois qu'on y va, m'a dit quand nous sommes allés à Bujumbura rencontrer ces femmes, ou bien quand je vais en mission du CNCD au sud Kivu, moi, la seule chose qu'elles me disent, elles disent, tu connais ce qu'on veut, donc si tu veux, tu peux rester là-bas et tu te bats d'abord pour ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la paix. Et notre docteur Honoris Causa de Louvain, quand elle est arrivée ici, Venancy Bissimoua, nous l'avons reçue au CNCD avec les ONG membres du CNCD. Elle nous a dit, il n'y a plus rien qui nous intéresse, même pas l'aide humanitaire. Il faut la paix. Et donc, vous ne faites partir tous ces groupes armés, vous nous ramenez la paix et nous-mêmes, on a les capacités de cultiver nos champs, d'exploiter les ressources et de vivre comme on a toujours vécu. Et donc, quand les gens disent ça, il y en a qui le comprennent mal en disant que les Congolais seraient plus sûrs. Les Congolais, non, c'est pas les plus sur soi. Il n'y a aucun pays au monde qui peut vouloir avoir une autre armée avec des groupes armés sur son territoire et puis commencer à se reconstruire, même psychologiquement, c'est très fatigant. Et donc, la marche mondiale des femmes à Bukavu, comme nous l'avons dit à l'introduction, c'est une très bonne chose, un courage énorme que personne n'a eu jusqu'à présent de dire on va aller là-bas au cœur du problème pour montrer notre solidarité tout en sachant tout ce qu'on encourt et tout ça. Mais moi, je pense que nous avons fait un très bon choix. Mais quand nous irons là, les femmes du Kivu, les femmes du Congo vont nous dire nous voulons la paix. Et nous le savons déjà ce qu'il faut pour faire la paix. Il faut que tous les groupes armés partent du Congo et que le pays soit sécurisé et les femmes et les hommes congolais sont capables de cultiver, comme l'a dit Madi, ce pays qui est un scandale géologique qu'on nous a toujours enseigné depuis l'école primaire, mais c'est la réalité, c'est pas une fiction. Le Congo peut nourrir toute sa population et nourrir même l'Afrique.
Tout à fait. Et c'est vrai que quand on parle, remettre le contexte qui cause tout ça est important, mais il faut toujours se dire qu'il y a des gens derrière, quoi. C'est ça surtout, qui remettre en fait les hommes, les enfants et les femmes du Congo au centre de tout, vraiment.
Voilà, c'est peut-être sur cette phrase.
C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Madi Tiembe, Sabine Kakunga et Soisine Dubo. Nous avons passé une heure ensemble et donc je voudrais clôturer avec deux choses. Les revendications de la Marche mondiale des femmes pour la paix et la démilitarisation des conflits et donc de faire des femmes les actrices de ce changement-là aussi, de considérer leur statut. Et aussi, deuxième revendication de la Marche mondiale des femmes, c'est de lutter contre les violences envers les femmes et notamment les violences sexuelles.
Et on vous donne rendez-vous le 10 octobre pour au musée de Tervuren dans le cadre d'une action marche mondiale, un rassemblement marche mondiale qui préparera justement cet envoi de la délégation au Kivu. Donc voilà.
Et alors ce 30 juin prochain, c'est le cinquantenaire de l'indépendance du Congo, mais c'est aussi une grande mobilisation de la marche mondiale européenne à Istanbul. Voilà, c'était petit agenda. Merci beaucoup à vous.
Merci Tamara.
Merci. Merci.
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elle les confronte pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.